Ben moi, je prends le sujet là d'aujourd'hui avec des mains tremblantes, comme disait Condorcet, de la réforme de la Constitution. Et je dois dire qu'après l'introduction de François Frimat tout à l'heure et l'intervention de Jacques Renard, dont je partage d'ailleurs le gros des éléments à ma façon, c'est que la confusion est à son comble. Et je m'explique. Déjà, le thème nous pose est-ce qu'il faut réglementer, hein? Moi, je suis plutôt pour penser qu'il est interdit d'interdire, quoi, quand même. Et puis, moi qui est amené à fabriquer des lois, quoi, fabriquer, je m'entends. Et donc, je me dis, est-ce qu'il va falloir légiférer sur un sujet pareil? Alors, je vais essayer d'éviter ce que les parlementaires appellent dans le débat budgétaire les 3 L, vous savez, les litanies, liturgie, léthargie. Et je vais plutôt effectuer une espèce de promenade autour du sujet, puisqu'il apparaît que tout est dans tout et le reste dans Télémac, et quitte à sortir du sujet pour mieux y rentrer. Avec la modestie de l'élu que je suis, bravo. J'allais y parler, nouvelle technologie. Là. Et donc, avec la modestie de l'élu, devant les artistes et les créateurs, quoi, en pensant toujours que ce n'est pas Jules II qui a peint les plafonds de la chapelle Sixtine et que l'histoire de la peinture, ce n'est pas l'histoire du pinceau. Et que le théâtre public, les musées, la danse, enfin, etc., qu'elle soit latitude contemporaine ou longitude, eh bien, parce qu'il y a aussi étirement dans la danse, hein, et donc sont apparus bien avant qu'apparaisse l'école publique, par exemple. Alors, donc, en quelque sorte, et vous m'en excuserez si ça fait quelquefois un peu prêchi-prêcha, mais pour marquer en quelque sorte le terrain, une espèce de pétition de principe ou de feuille de route, comme on dit actuellement, puisque c'est à la mode. Alors, toutes ces précautions, pourquoi? C'est parce que il ne faut pas se le cacher, que reconnaître le rôle, la place de la culture, de la création dans notre société demeure un combat. Et la quasi-absence notée par Jacques Renard des mots même de culture, d'art, et plus encore d'art contemporain, dans les 2 campagnes électorales en témoigne. Et pourtant, le combat pour la culture et le combat pour la démocratie sont de même nature. C'est un combat politique. Il est lié à la cité, politique d'ailleurs au meilleur sens du terme, c'est-à-dire assumer son destin et pas le subir. Alors au passage peut-être l'expression d'un regret, la confusion trop souvent répandue dans le débat politique quand il a lieu entre culture et art. Et on laisse trop souvent l'art se noyer dans le terme de culture. Et sans vouloir entrer dans une querelle de mots, la nuance et l'importance, c'est d'ailleurs bien plus qu'une nuance, et bien nommer les choses est préférable si on ne veut pas ajouter au malheur du monde. Alors pour moi, faire la culture populaire, et je ferai un effort de ne pas définir l'interpellation qu'il y a dans l'invitation du festival Latitude Contemporaine, faire la culture populaire, ça consiste d'abord à réaffirmer 2 droits fondamentaux, celui des artistes à créer dans la liberté et le pluralisme, et celui des citoyens à rencontrer les créations et aussi à s'exprimer. Or, ces droits sont trop souvent en souffrance. On constate des tendances et des tentatives culturicides, de nature populiste, j'y reviendrai, à tous les coins de l'échiquier politique d'ailleurs. Hein. Parce que là, il n'y a pas de ligne de partage entre droite et gauche, enfin j'y reviendrai. Les velléités d'ingérence, mais aussi la censure, l'autocensure, en sont une manifestation, sans parler de l'instrumentalisation de la culture et de l'art au nom de la communication, du développement économique, touristique ou de l'aménagement du territoire, etc. Et il ne faut pas s'y tromper. En matière de culture, la couche effrénée à l'audience est synonyme de censure aussi. On est loin d'utopie. Et la culture, je pense, doit être vue sous l'angle du développement humain et de l'émancipation individuelle et collective. C'est l'épanouissement de toutes les capacités humaines. Alors l'art, de son côté, n'a pas pour but de faire l'unanimité. Au contraire, et c'est l'une de ses raisons d'être. Il invite au débat, à la confrontation. Il crée un espace de partage et de pensée qui s'oppose à la fusion uniformisante et s'enrichit des diversités et du pluralisme. De son côté, si l'économie libérale reconnaît une place prépondérante à la culture, c'est uniquement en part de marché, imposant ses sous-produits. Et les jeunes gens en sont la première cible. comment ne pas en faire une question éminemment politique, toujours au meilleur sens du terme. Et face à la célébration du divertissement et du loisir décervelant, nous avons besoin de matières grises agissantes. Alors pour moi, le populisme, même si le terme a tendance à échapper à toute définition, c'est une façon de tordre la démocratie en méprisant le peuple tout en le flattant. Son compagnon de route, c'est la démagogie sociale. Bertolt Brecht, lui, disait plaisamment qu'il en est qui rêve de pouvoir dissoudre le peuple ou de changer de peuple. Et il y a ceux qui le méprisent, qui veulent le nivellement par le bas. Et le populisme poussé jusqu'à son extrémité, eh bien, c'est le fascisme. Et puis c'est, voire le nazisme, c'est Mussolini, Hitler, Pétain et Le Pen. Quant au terme populaire, il admet une telle diversité de sens qu'il en perd en clarté, ce qui colle en extension, je suis totalement d'accord avec Jacques Renard là-dessus. Tout est populaire d'ailleurs aujourd'hui, hein. Les quartiers populaires, l'électorat populaire, le rassemblement populaire, le bal populaire, la République populaire de Chine, le Front populaire, enfin, etc., etc., le bon sens populaire, et on pourrait en rajouter à longueur de page. Alors si le mot populaire est partout, où est le peuple ? À une époque où l'on a de cesse de nous convaincre que la lutte des classes, ça n'existe pas. Ça, c'est pour faire plaisir à Bernard Sauvel. Et dans le domaine qui nous concerne, une autre forme de populisme fréquent consiste à opposer les disciplines les unes aux autres, les structures, les grandes structures aux petites, divisées pour mieux couper les vivres d'ailleurs aux uns et maintenir les autres dans une précarité encore plus précaire. En tout cas, on oppose souvent culture populaire et culture savante, l'une étant généralement considérée comme la culture des dominés, l'autre comme celle des dominants. Je me souviens d'ailleurs de l'époque où, de mes errements, et où on parlait de culture bourgeois et de culture prolétarienne, de sport bourgeois, de sport prolétarien, de sciences bourgeoises, même de sciences prolétariennes. Et en fait, ce faisant, on fermait toutes les portes. Alors d'ailleurs, le populiste, j'avais proposé à François Frima de poser la question à la salle, y a-t-il un populiste dans la salle ? Et je venais avec un revolver. S'il y en avait un qui levait la doigt, moi qui suis un vieux conventionnel régicide, je tirais, quoi, avec un pistolet à bouchon, quoi. Et disons, le débat est terminé. Hein. Alors, le populiste dénonce l'élitisme, d'ailleurs, souvent, de telle ou telle activité, parce qu'il ne veut pas partager. Hein. Il veut se réserver ce qu'il y a de meilleur. Pourtant, force est de constater qu'aujourd'hui, les processus de distinction culturelle ne mettent pas seulement en jeu les appartenances sociales, mais concernent aussi la variation individuelle des pratiques et des préférences. Avec la multiplication des supports, l'Internet, MP3, DVD, etc., l'hiérarchie culturelle se transforme. Chacun aujourd'hui peut passer de la musique classique à la variété, regarder télé-réalité à la télévision et même aller à des spectacles du festival Latitude Contemporaine. C'est pourquoi, alors même que consommer est devenu l'acte culturel dominant, je pense qu'il est non seulement possible, mais indispensable de faire vivre une culture élitaire pour tous, c'est-à-dire une culture populaire exigeante. Et là, je donne un coup de chapeau à Antoine Vitesse. Et à ce moment de l'exposé, je voudrais évoquer devant vous les exclus que certains artisans de la société multivitesse, et en particulier certains sociologues, osent appeler hommes à part, hommes dépréciés, hommes intermédiaires, citoyens de l'entre-deux. Alors je dois dire qu'à leur égard, souvent, les pouvoirs publics agissent à partir de leur malheur et non pas du mal. C'est-à-dire qu'ils soignent le pauvre dans l'homme et non l'homme dans le pauvre. Et tout exclu est alors victimisé. L'exclusion n'a pas de cause, pas de responsabilité identifiée, elle est fatalisée et appelle seulement la compassion. Donc c'est des mesures caritatives ou redistributives courtes. On prend ces mesures qui n'indiquent pas l'exclusion. Ce sont des réponses à minima que propose trop souvent une allocation, un travail et une culture au rabais. Or, le droit, comme le respect, ne se divise pas. Et vous savez bien que le monde du peu se satisfait finalement de la démocratie du petit. Un petit peu plus de sous, un petit peu plus de bonheur, un petit peu plus d'égalité, un petit peu plus de liberté, un petit peu plus urbain, un RMI de vie, quoi. Et je ne parle là que de l'aspect monnaie, parce que l'exclusion, c'est la mise à l'écart de l'échange social, de l'échange symbolique sans lequel la vie n'est pas la vie. Et justement, la place de l'art dans la lutte contre l'exclusion, toutes les exclusions, est à plus d'un titre essentiel, parce que l'art est le champ de tous les possibles et de toutes les différences. et chaque homme, chaque femme doit avoir une piste d'envol. Cela signifie qu'il n'y a pas de culture de deuxième classe. Je prends souvent l'exemple d'un gosse. Il est avec ses parents. Il achète un petit train. Il se promène avec son petit train. Il apprend le train, il apprend la locomotive. Ça ne lui pose pas de questions. Et un jour, il arrive à l'école. Il faut bien écrire train et locomotive. Locomotive, 10 lettres, et c'est un petit objet comme ça. Et train, 5 lettres, c'est grand comme ça. Et il est confronté à l'arbitraire du signe. Et c'est ça la culture. Et ça ne peut pas être rabaissé. On ne peut pas naître au monde si on n'assure pas cela. Cela veut dire une culture à plusieurs vitesses. Refuser, il faut refuser une culture à plusieurs vitesses. Chacun, quelle que soit sa condition sociale ou géographique, doit avoir accès aux œuvres de l'esprit. Cela étant, lutter contre l'abstention culturelle implique de ne pas déconsidérer les personnes en manque ou en déficit de culture. La culture n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on cherche. Or, nous savons bien qu'il n'est pas de citoyenneté sans accès au savoir, sans partage des connaissances, sans émergence des capacités à créer du symbolique. Alors, comment accepter que la culture de masse devienne de plus en plus une culture au rabais, une culture bas de gamme, une culture stéréotypée? Avec l'hégémonie des industries culturelles, la culture populaire de nos jours est-elle encore la culture du peuple ou celle des impératifs marchands? Pourtant, au-delà des logiques de consommation ou de loisirs, l'évolution du temps libre contribue aussi à faire naître de nouvelles aspirations, mais aussi de nouvelles exigences de qualité, de diversité, de formation et aussi de pratique, en particulier chez les plus jeunes. Et c'est parce que la culture est aussi nécessaire à l'homme que le sont le travail, la nourriture, le logement, la santé, que la culture est une dimension essentielle de l'intervention publique et qu'il faut conserver naturellement un ministère de la culture. Alors elle est souvent décriée comme dispendieuse, élitiste, réservée à une minorité, alors que la culture fait naître au contraire une inestimable plus-value humaine et nourrit ce bien précieux qu'est l'en commun des hommes. Et face au populisme et contre la pédagogie du renoncement, il faut opposer l'action, la solidarité et l'audace de la création. Indiscutablement, faire de la culture populaire passe par l'école et la télévision. Pour l'école, naturellement, il faut modifier en profondeur et durablement, du bien en profondeur, est durablement une réalité qui a trop perduré d'une éducation artistique minimisée et marginale. L'art à l'école ne doit plus être à part, optionnel, ou reposer sur le volontarisme de tel ou tel professeur. L'art à l'école relève d'une véritable politique nationale. C'est une condition nécessaire pour n'en écarter personne. Et en ce qui concerne la télévision, il n'y a pas besoin de faire la démonstration qu'elle pourrait être un outil pédagogique capital d'accès à la culture et générer une formidable appétence. Et comment comprendre que le service public de la culture ne puisse s'appuyer sur le service public audiovisuel et ça n'exonère pas le service public de l'audiovisuel de passer une œuvre nouvelle, Jacques Gonnet, de Cyrano de Bergerac, hier soir à France 2, qui réglera le problème. Alors plus au fond, et on y revient toujours comme la mer sur les galets, à chaque marée, pourquoi les habitants de notre pays n'auraient-ils pas droit au meilleur de ce qui est capable de créer l'homme dans le domaine des arts, comme dans celui des sciences d'ailleurs. Et faire la culture populaire en ce début de XXIe siècle, n'est-ce pas permettre à l'ensemble de la société, par exemple, de s'approprier l'art contemporain, de s'en faire une force de réflexion? Mais, comme je le disais en ouverture, reconnaître ce rôle de la culture, de la création artistique, ça reste vraiment un combat. Et à ceux qui déclarent qu'il y aurait trop d'artistes parce qu'il y aurait trop peu de public, on pourrait répondre, imagine-t-on quelqu'un trouvant qu'il a trop de suffrage universel parce qu'il a trop d'abstention aux élections? D'autant que l'on peut affirmer que l'enjeu de la culture pour tous est l'enjeu de la démocratie tout court. Et quel enjeu pour nos territoires où les lieux de culture se concentrent dans les centres urbains au détriment des périphéries? Contrairement à ceux qui disent qu'il y a trop de théâtre, trop de musées, trop d'orchestres, trop de compagnies de danse, je réponds non, il n'y en a pas assez. Plutôt que de parler d'échecs de la démocratisation culturelle régulièrement, dont certains se targuent pour mieux masquer un fatalisme démissionnaire, ne laissons pas une élite économique et sociale s'accaparer de la jouissance du beau et de l'émotion. C'est à l'épreuve du feu qu'on se brûle, c'est à l'épreuve de l'art qu'on en suscite le désir. Et si les inégalités culturelles ne se sont pas atténuées, c'est surtout parce que les inégalités sociales et économiques n'ont fait que se renforcer ces dernières années. Pauvreté économique et pauvreté culturelle sont liées, même si l'on constate également un appauvrissement culturel généralisé, y compris dans les classes sociales les plus favorisées. Par exemple, il y a beaucoup de décideurs politiques, de décideurs économiques qui sont de plus en plus déculturés. Pas tous, heureusement, mais quand même, il y en a un peu trop. Et comment voulez-vous qu'ils soutiennent l'art s'ils l'ignorent ? Le non-partage de l'art, c'est comme une bombe antipersonnelle. Ça fait des mutilations terribles. L'inégalité, y compris face aux richesses de l'esprit, devrait être éradiquée de la même façon qu'il a été mis fin à l'esclavage il y a un siècle et demi. Comme le soulignait Condorcet, vous verrez deux fois Condorcet quand même. Il n'y a pas de liberté pour l'ignorant. Il y avait Victor Hugo qui disait « Ouvrons des lieux de culture, nous délivrerons des ghettos ». Et la tragédie des violences urbaines d'il y a quelque temps a apporté une lumière crue à ce qu'affirmait Victor Hugo il y a plus d'un siècle. Et je voudrais relire un petit passage de L'année terrible, son poème « À qui la faute ?»« Tu viens d'incendier la bibliothèque. Oui, j'ai mis le feu là. Mais c'est un crime inouï, crime commis par toi, contre toi-même, infâme. Le livre est ta richesse à toi, c'est le savoir, le droit, la vérité, la vertu, le devoir, le progrès, la raison dissipant tout délire, et tu détruis cela, toi. Je ne sais pas lire. » Notre peuple, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a plus que jamais besoin de l'exception culturelle qui affirme que l'art et la culture doivent impérativement se dérober aux seules règles du marché, de la concurrence et de la financiarisation accélérée. Et je dois dire que la globalisation culturelle est une véritable tragédie qui aboutit à la glorification d'une culture dominante au détriment de tous les autres. Les États-Unis ont compris depuis longtemps que la culture et son industrie du divertissement étaient de formidables vecteurs d'expansion économique et idéologique. C'est un phénomène d'une ampleur inédite dans l'histoire de nos sociétés. C'est la liberté de création qui est ainsi directement menacée. C'est aussi pourquoi il est à mon sens urgent de retrouver le courage du meilleur pour tous. C'est une condition essentielle pour échapper à la standardisation de la pensée qui met en danger la diversité culturelle comme le pluralisme des expressions artistiques et ampute l'imaginaire des peuples. Il est plus que jamais indispensable de s'opposer à cette uniformisation des esprits afin que le marché ne prenne l'ascendant sur la culture, la technique sur la communication, le commerce sur la pensée. La qualité de la vie à notre époque, c'est ce que disait déjà Villard en son temps, c'est le eau, gaz, électricité, art et culture à tous les étages. D'où l'importance d'un service public de la culture et de politiques culturelles et artistiques ambitieuses. Bref, l'art et la culture se portent bien à condition qu'on les sauve. Car face à la mondialisation, comment ne pas voir que l'art et la culture sont mis en danger par la concentration des industries culturelles et leur diktat de rentabilité d'audimat, de rachat en fusion, quelques grands groupes contrôlent des pans entiers de notre vie, télévision, cinéma, musique, édition, presse. La diversité culturelle est pourtant la clé de voûte du développement humain. La culture transmet aux descendants tout ce que leur hérédité ne fait pas. La culture, elle n'est donc pas une pièce rapportée, un ornement. La culture, c'est l'être face à l'avoir que le capitalisme magnifie et développe à un point tel que désormais, à travers l'échange marchand, il désymbolise le monde. Le souverain bien que constitue la culture, pour reprendre l'expression de Spinoza, échappe à la mise en moyenne. Néanmoins, face à l'hégémonie de l'argent roi, il devient désormais vital de réaffirmer que l'art, la culture, mais aussi l'éducation, la santé et l'eau ne sont pas à vendre. La culture n'est ni un luxe ni un superflu, elle est de première nécessité. Et face à la montée des intégrismes, du communautarisme, il y a urgence à construire des passerelles entre les cultures et à approfondir le dialogue des civilisations. Et l'art ne nous rappelle-t-il pas en permanence que nous sommes partie d'une communauté qui s'appelle l'humanité ? On le sait, les populations les plus démunies peuvent être amenées à se tourner vers les faux prophètes ou de vrais démagogues, dont le seul but est de s'arroger le pouvoir en exploitant la misère et les détresses humaines. Les extrémismes naissent en grande partie des frustrations engendrées par les disparités de développement et aussi le défaut d'éducation. L'intelligence et la sensibilité sont les principales ressources de l'humanité, et je pense qu'il nous faut les cultiver avec passion. C'est pourquoi les élus du peuple... On retrouve quand même le peuple... se doivent de faire preuve de courage à la création et d'une plus grande détermination dans les politiques afin que tous et chacun puissent trouver dans le partage de l'art et des cultures les moyens de son épanouissement personnel, mais aussi de l'émancipation collective et citoyenne. Et dans ce monde de violence inouïe, d'inégalités grandissantes, les 6 milliards d'habitants de la planète aspirent à la liberté, à la paix, à la démocratie, au respect des droits de l'homme, à la liberté, et sur tous les continents, l'art et la culture sont le socle pour mieux construire la société de demain. On le constate, les artistes, la création, restent une source d'inspiration et de construction pour un monde pacifié, solidaire et surtout plus juste. L'art, la création, l'imaginaire, l'émotion nous aident à poser la seule question qui vaille, dans quel monde voulons-nous vivre demain ? C'est pourquoi il est à mon avis impérieux de sortir de la démarche trop répandue qu'il est fatal, qu'il soit fatal que la culture soit toujours traitée après, que ce soit au niveau local, national ou mondial, alors qu'elle est au centre de la vie, qu'elle a la réponse de civilisation aux difficultés et aux crises. Pour reprendre Malraux, l'art est le plus court chemin qui mène de l'homme à l'homme. Et si certains experts et comptables arrogants et glacés nous parlent toujours du coût de la culture, je ne répéterai jamais assez, ceux qui me connaissent le savent, que ce n'est pas la culture qui coûte cher, mais que c'est bien l'absence de culture qui coûte cher. On le voit bien dans nos quartiers. Et dans un monde où on assiste à l'offensive de l'argent absolu, comme on disait monarchie absolue, nous savions déjà que l'argent qui circule dans nos destinées mettait la main dans nos rêves comme dans nos poches et nous sacrifiait en nous flattant. Oui, l'effondrement de la raison produit des monstres, et l'art et la culture sont devenus de véritables enjeux de civilisation et la condition même de notre civilisation. En attendant, et je vais quand même atterrir, merci à vous tous et au festival Latitude Contemporaine de faire entendre le murmure culturel dans le vacarme marchand. Heureusement, je le pense sincèrement, les artistes sont là, ils nous aident à vivre, à aimer et à ne pas oublier que le bonheur reste une idée neuve en France, en Europe et dans le monde.